Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Cette semaine, nous partons au Rwanda, un petit pays d'Afrique de l'Ouest rendu tristement célèbre par le génocide qui l'a frappé en 1994. Alors que la communauté internationale commémore les 30 ans de cette tragédie, nous revenons sur le profil de Paul Kagame, son président, chef de guerre et artisan de la réconciliation, un homme déterminé qui suscite autant l'admiration que la crainte.
Bonjour, bonjour à tous. Nous commémorons aujourd'hui les 30 ans du génocide rwandais qui a provoqué quelque 800 000 morts, majoritairement tutsis, en 3 mois. C'est un triste anniversaire qui est aussi l'occasion d'évoquer l'homme fort du pays, Paul Kagame, désigné président en 2000 par le Parlement. Il est reconduit à ce poste lors des élections de 2003. Il remporte ensuite celles de 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Le 15 juillet prochain, il sera de nouveau candidat à sa propre succession pour le compte de son parti, le FPR, Front Patriotique Rwandais. S'il est élu, ce sera son 4e mandat, sachant que la Constitution l'autorise à se présenter jusqu'en 2034.
Alors, président depuis 24 ans, il est en fait aux commandes depuis bien plus longtemps.
Oui, il est incontournable depuis la fin du génocide en 1994 et il est donc au pouvoir depuis près de 30 ans. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Paul Kagame est issu d'une famille royale rwandaise qui a fui son pays pour l'Ouganda en 1961. Paul Kagame a alors 4 ans. Il grandit dans un camp en Ouganda et à 22 ans, il rejoint les combattants de Yoweri Museveni qui luttent contre le dictateur Idi Amin Dada. Le mouvement qui devient l'Armée nationale de résistance, NRA, est soutenu par les États-Unis. Lorsque Yoweri Museveni réussit à prendre le pouvoir et devient président, Paul Kagame est nommé chef des services de renseignement militaire ougandais. Austère, secret, discipliné et aussi sans pitié, il parfait sa formation aux États-Unis. En 1987, il cofonde le Front Patriotique Rwandais, lequel se dote d'une branche armée, l'APR, Armée Patriotique Rwandaise, qui tente dès 1990 de reprendre le pouvoir au Rwanda. C'est le début de la guerre civile qui s'achève en 1993 avec les accords d'Arusha. En 1994, finalement, après l'attentat contre le président Juvénal Habyarimana qui marque le début du génocide contre les Tutsis, le FPR prend les armes contre les forces armées rwandaises et bien qu'en son ombre, rétablit l'ordre dans le pays. Le pasteur Bizimungu devient président à la tête d'un gouvernement d'unité nationale, tandis que Paul Kagame cumule les fonctions de vice-président et ministre de la Défense. Au dire de tous, à cette époque, déjà, c'est lui l'homme fort du pays.
Si le Rwanda a réussi à se reconstruire, c'est surtout grâce à lui.
Oui, on lui reconnaît une réussite économique incontestable et assez miraculeuse, avec la plus forte croissance des communautés d'Afrique de l'Ouest entre 2010 et 2017, soit 7,9% par an en moyenne, et aussi la plus faible corruption d'après l'ONG Transparency International. La pauvreté a diminué et la durée de vie s'est allongée. Paul Kagame se targue aussi d'avoir fait abolir la peine de mort, y compris pour les génocidaires en 2007, et libéré de nombreux génocidaires dans le cadre d'un programme de réconciliation. Le pays a également fait avancer les droits des femmes. Leur taux d'alphabétisation, de scolarisation ont augmenté de façon significative et elles ont un taux d'activité supérieur même à celui des hommes, même si leur emploi est souvent moins bien payé ou qualifié. Car, unique au monde, elles sont aussi majoritaires au Parlement et même au gouvernement.
Mais comme toujours, tout n'est pas complètement rose, n'est-ce pas?
Évidemment. Avec ses voisins, il entretient des relations tendues. En 1997, il a été accusé d'incursion et d'ingérence au Zaïre voisin, où s'étaient réfugiés de nombreux Hutus. Il participe ainsi au renversement du président Mobutu. Aujourd'hui, un rapport de l'ONU confirme que le Rwanda soutient le M13, mouvement de rébellion congolaise actif en RDC, République démocratique du Congo, et auteur de nombreuses atrocités. En interne, Paul Kagame domine la vie politique de son pays depuis des décennies, n'hésitant pas à éliminer ou à emprisonner ses opposants et critiques, y compris l'ancien président Bizimungu. Dans son rapport 2022, Amnesty International notait, je cite, « Cette année encore, les autorités ont harcelé, intimidé, persécuté et détenu illégalement des journalistes et des blogueurs et blogueuses, les pouvoirs publics n'ont pas révélé ce qu'il était advenu d'Innocent Bahati ni où il se trouvait. Innocent Bahati, c'est un écrivain et poète dont les critiques envers le régime ont sans doute provoqué la disparition. Malgré tout, Kagame, parce qu'il participe à la lutte contre les islamistes, notamment au Mozambique, et que son pays reste un îlot de stabilité dans la région, continue à bénéficier du soutien des Occidentaux, dont les Américains et les Britanniques.
Et avec la France, comment ça se passe? Je crois que cette année, Emmanuel Macron ne devrait pas se rendre à Kigali pour les commémorations.
Oui, absolument, mais une délégation ministérielle doit faire le déplacement. Et cela s'explique par 30 ans de relations compliquées entre les deux pays, la France étant accusée d'avoir soutenu le régime génocidaire, alors que des proches de Kagame sont mis en cause dans l'attentat qui a tout déclenché. Alors, des plaintes et des commissions d'enquête ont été lancées des deux côtés. Finalement, ce n'est que récemment que les relations se sont apaisées, notamment avec la publication du rapport Duclert en 2021 et rédigé à partir des archives françaises ouvertes et ayant trait au Rwanda.
Et nos conclusions, c'est bien de constater des responsabilités lourdes, accablantes de la France dans le processus qui a mené au génocide des Tutsis. Ça, ces constats sont terribles pour la France, mais en même temps permettent aussi de sortir dans l'honneur, au fond, et donc d'avoir, aussi une réponse de la France qui soit celle de la vérité, qui soit celle de la responsabilité.
Enfin, après 6 ans de vacances, la France a rétabli sa présence diplomatique au Rwanda en nommant Antoine Anfray ambassadeur en 2021. Ce dernier avait, dès 1991, alerté l'Élysée des risques de dérives violentes au Rwanda. Et à ce titre, il est considéré comme un lanceur d'alerte. Le choix de cet homme est éminemment symbolique. Maintenant, reste à voir comment tout cela va évoluer.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.